France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, hommage à Juliette Gréco, deuxième partie. La disparition de Juliette Gréco le 23 septembre dernier a suscité de très nombreux hommages qui ont souligné sa présence scénique, sa voix grave et majestueuse, profonde et puissante, mais aussi son art du paradoxe, mêlant grâce et gouaille, exigence et délicatesse, sensualité et incandescence, sobriété et ferveur, amour et combat. Pour l'apparence, Gréco fait partie, avec Damia, Edith Piaf puis Barbara, des quelques dames, j'ai presque envie de dire des divas de la chanson, vêtues de noir. Pour l'interprétation, Gréco appartient à une belle lignée de chanteuses comédiennes. Yvette Guilbert, Yvonne Georges, Marie Dubas, Marianne Oswald, Agnès Capri, Germaine Montero, Cora Vauquer, Catherine Sauvage et quelques autres. Pour le répertoire, Gréco a mis la poésie à la portée de nos vies. La liste de ses auteurs, bien trop longue à énumérer, est un magnifique florilège de la culture française du XXe siècle et même aussi du XXIe, dont elle s'est faite une brillante ambassadrice à travers le monde. Cette semaine encore, nous allons retrouver la voix de Juliette Gréco dans la seconde partie d'un entretien que j'ai eu le bonheur de réaliser en août 2009 pour France Musique, afin d'évoquer des aspects parfois méconnus de sa personnalité de chanteuse. Elle fêtait alors ses 60 ans de chansons avec la sortie d'un album réunissant de jeunes signatures et une série de concerts dans des lieux prestigieux.
Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois, un petit poisson, un petit oiseau. Un petit poisson, un petit oiseau, ça fait l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans le... Un petit poisson, un petit oiseau, ça fait l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu entre des nuages. On regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoires, à plongeoires, le ciel en baignoire. Un petit oiseau, ça met d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Poisson, un petit oiseau, ça met d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage. Qu'apporterait du ciel, y'a peut-être un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage, des plumes en écailles, des ailes en chandail et des ailes en paille. Un petit oiseau, ça met d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, ça met d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Mais comment s'y prendre? Ah.
Juliette Gréco, j'aimerais qu'on parle de vos gestes. Ça, c'est quelque chose, semble-t-il, très important. Parce que sur scène, il faut se représenter, vous êtes toute vêtue de noir, de velours noir, mmh, avec une robe presque sculpturale. Donc on voit votre tête et vos mains. Et vous en faites beaucoup de choses de vos mains. On a l'impression que chaque mot est réfléchi, que rien n'est laissé au hasard.
Tout est au hasard. Tout est au hasard. Tout est de la nourriture... que j'ai eu dans la journée, de la nourriture émotionnelle que j'ai eu dans la journée. Je peux complètement changer le sens d'une chanson selon la personne que je suis à ce moment-là. Je n'ai pas de règles et je ne répète jamais mes gestes. Le geste vient avec le mot jusqu'au bout des doigts. Et ça, c'est peut-être cette discipline de danse classique que j'ai eue pendant quelques années qui fait qu'on exprime avec son corps, avec ses bras, avec ses mains. Grâce au ciel, personne ne voit ce qui se passe sous ma robe. Je peux être impudique. Je peux être impudique dans la manière de dire. Parce que je suis totalement protégée. Je suis derrière un voile noir. Et on ne voit pas mon corps. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours désiré. J'ai toujours désiré être un tableau noir.
pour que les gens écrivent ce qu'ils veulent dessus. Je suis terriblement attachée au sens des mots. C'est une pièce de théâtre, une chanson. Or, je suis toute seule à jouer plein de trucs. Et il faut que les gens aient le sentiment que c'est vivant, que c'est joué, que ça parle, que ça bouge, que ça remue, que ça vit. J'ai le bonheur parfois que les gens à l'étranger viennent dans ma loge, me parlent en anglais, ce qui me fonronne, parce que le français est totalement oublié, mais ils viennent quand même. Et ils me disent, je parle très très peu le français, très mal, ou je ne parle pas le français, mais j'ai tout compris. Je n'ai qu'à regarder vos mains et j'ai tout compris. Donc c'est bien, ça sert à quelque chose.
Jacques Brel, Gérard Joannest, Bruxelles. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles, place de Beaucaire, on voyait les vitrines avec des dames en crinoline, place de Beaucaire. On voyait l'omnibus avec des dames, des messieurs en gibus, ouais, sur l'impériale, le feu dans les étoiles. Fonctionnaire, il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait qu'on soit malin. Ah, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles, sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, les femmes en crinoline, sur les pavés, dansaient les omnibus, avec des dames, des messieurs en gibus, ouais, sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Et on voudrait qu'on soit sérieux. C'était un temps où Bruxelles chantait, c'était un temps du cinéma muet, c'était un temps où Bruxelles rêvait, c'était un temps où Bruxelles, sous les lampions de la place Saint-Justine, chantaient des hommes, des femmes en crinoline, sous les lampions dansaient les omnibus avec des dames, des messieurs en gibus, ouais, sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, et il a tendu la guerre, elle a tendu mon père, et il était gay comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles.
Est-ce que vous vous considérez comme une comédienne de la chanson, et dans ce cas, est-ce que vous reconnaissez que vous appartenez à une famille d'autres interprètes qui sont aussi des comédiennes de la chanson, et on pourrait en citer pas mal?
Bien sûr. Bien sûr, quand j'étais petite, j'écoutais une femme qui s'appelait Yvonne Georges, ou Yvette Guibert, des gens comme ça. Mais Barbara aussi, c'est pareil. Chacun joue sa vie. On joue tous notre vie pendant ces quelques minutes. Il y a des gens qui ne jouent pas leur vie, il y a des gens qui chantent très très bien, hein, impeccable, mais on ne sent pas qu'ils se mettent en danger du tout. C'est admirable, mais on ne sent pas les failles, on ne sent pas les blessures, il n'y a pas d'odeur de sang, il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de larmes, c'est parfait. Nous, on est des imparfaits.
Et est-ce que vous acceptez l'étiquette diseuse?
Bien sûr que oui, certainement. Certainement, mais ma vocation n'était pas du tout de chanter, ma vocation était le théâtre, la danse d'abord, parce que je ne voulais pas parler, et que le corps était là pour exprimer les sentiments. J'ai suivi des cours de théâtre avec Pierre Dux, j'étais à l'école de la rue Blanche. Je voulais faire du théâtre, je ne savais pas que j'allais chanter du tout, du tout.
Et alors, l'autre dame de la chanson dont j'aimerais qu'on dise un mot, c'est Cora Vauquer, qui s'est retirée de la scène et a fait le choix du silence depuis 10 ans, mais qui se définit parfois comme votre négatif, c'est-à-dire, vous avez une robe noire, elle a une robe blanche, vous avez les cheveux noirs, elle a les cheveux blonds, vous avez les yeux noirs, elle a les yeux verts. Pourtant, vous avez partagé un certain nombre de chansons ensemble, notamment du Prévert, oui. Pas mal de Prévert, et du Brel aussi, et j'ai le sentiment quand même que vous avez défendu un peu la même chose.
Bien sûr que oui. J'ai beaucoup d'admiration pour Cora Vauquer. J'ai mis très 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 longtemps à chanter 3 petites notes de musique. J'adore cette chanson. Je chantais ça tout le temps. Et un jour, Gérard me dit, mais pourquoi tu chantes pas ça? Pourquoi tu chantes pas cette chanson? Je dis, j'y arrive pas, j'aime trop Cora, j'aime trop la manière dont elle le chante. Je dis, bah, essaie. Et il m'a poussé à le faire. Et je l'ai fait avec un bonheur fou, quoi. Et je la chante... périodiquement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté, mais ça ne va pas tarder à venir. Ça fait partie des choses que j'ai envie de chanter. Il ne faut pas que les chansons meurent non plus.
Si vous deviez résumer vos sentiments à l'égard de Cora Vauquer,
J'ai la plus profonde admiration, le plus profond respect et la plus grande tendresse pour Cora Vauquer. En plus, c'est une femme qui a beaucoup d'humour. Elle est intelligente, elle est cultivée, elle est d'une force... incroyable, c'est une superbe interprète, superbe. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, beaucoup.
Trois petites notes de musique vont plier boutique au creux du souvenir. C'en est fini leur tapage, elles tournent la page. Et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Le sang, rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai.
Avez-vous un goût particulier pour les salles de théâtre, mais vraiment les théâtres? Cora Vauquer, par exemple, adore les théâtres parce que pour elle, c'est un écrin. Et vous, finalement, le temps passant, vous les avez à peu près tous faits aussi, les grands théâtres de Paris?
J'ai fait les plus beaux, et les plus grands et les plus importants théâtres, sauf l'opéra, bien sûr. Mais sans ça, j'ai fait ce qu'il y a de plus beau et de plus inquiétant. Mais j'aurais tendance à préférer les très grandes salles aux petites. J'ai moins peur dans une grande salle, je suis plus au recul, je suis moins près des gens. Plus c'est grand, moins je suis fragilisé. Je suis quand même terriblement fragilisé. Mais dans une petite salle où les gens sont tout près de moi, je retrouve toute ma pudeur et ça me paralyse un peu.
Donc on ne risque pas de vous voir au Bouffe du Nord?
Si, parce que c'est une expérience que je voudrais faire, que j'ai failli faire d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont préféré me faire faire les grandes salles. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas moi qui choisis, hein. C'est pas moi qui ai choisi.
Quand vous dites c'est pas moi qui choisis, donc c'est un agent qui choisit pour vous ?
Propose. Il me dit ce que vous voulez faire, l'hôtel des Champs-Élysées. Là, j'ai un petit moment d'inquiétude et puis je dis oui. Parce que comme c'est dans 6 mois ou dans 1 an, je me dis j'ai le temps. Quand c'est très très avant, je dis oui. Quand c'est très rapproché, je suis moins fière.
Benjamin Biolay, Tour au monde. Un dimanche de plus, sans un coin de ciel bleu. Un dimanche de trop, où ton cœur amoureux frissonne sous la pluie. Quelle tragédie d'un dimanche de plus où il n'y a rien à faire qu'un tour de vélo sur la roue arrière, un ciel entre le gris. Pierre Caladi, une journée de rien, un jour plus, c'est toujours une journée au moins. Puisqu'on est dans le monde. C'est qu'un dimanche de pluie sur la corde à linge, nous n'irons pas au zoo. Il neige sur les singes, mais pas des confettis. Pierre Caladi, c'est un dimanche de pluie, sans oiseaux dans l'azur, sans marcher dans l'eau, en gardant ses chaussures. Le ciel entre de gris, c'est assombri. Une journée de rien, un jour plus vieux.
À présent, Juliette Gréco, qu'on parle un petit peu de vos tournées. D'abord en France, pour commencer, puisque vous avez énormément sillonné avec Gérard Joannès en voiture. Et on a l'impression que vous êtes presque démissionnaire de la chanson, parce que on a l'impression que ça ne vous dérange pas d'aller dans les coins les plus reculés pour apporter la chanson au public. Enfin, je le ressens comme ça.
Je peux faire l'Opéra de Francfort, le Théâtre des Champs-Élysées, le Châtelet, et le lendemain, je peux très bien aller en banlieue parisienne, dans une banlieue improbable, où j'ai exactement les mêmes sentiments, avec en plus une inquiétude différente, qui est celle d'une rencontre moins évidente, dirons-nous. Souvent, les jeunes gens viennent, après ils me disent « Ah oui, ma mère m'a dit, ma grand-mère m'a dit, alors je suis venu voir comme ça. Ah, c'est bien, hein ?» Alors là, j'enfourche mon nuage. Et là, je sais que je sers à quelque chose. Voilà, c'est magnifique de se sentir utile à quelque chose. J'ai fait mon devoir de servante.
Il y a une chanson de Julien Clerc que vous avez reprise, « Utile ».
C'est mon histoire. C'est après une conversation avec Roda, où je lui ai raconté mon histoire au Chili. Il a écrit ça. Donc elle est à moi.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient les Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne. On voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver.
comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. Si elle est désarmée, me disaient des chiens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
Alors maintenant, on va parler de l'étranger. J'ai l'impression que vous adorez partir et que vous avez sillonné donc beaucoup de pays. Les principaux, me semble-t-il, c'est l'Allemagne, le Japon et l'Italie.
Je suis allé pour la première fois au Japon il y a bientôt 50 ans. J'y retourne régulièrement tous les deux ans. Là, je repars en novembre. Je fais de très 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 grandes salles au Japon. J'ai commencé par en faire des petites, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de théâtres grands, et je suis probablement la seule personne de mon espèce, d'une part féminine, femme, et d'autre part de mon métier, à avoir chanté au théâtre No. J'étais invitée au théâtre No. Grand, immense honneur. Mais ils ont quand même mis un tapis par terre pour que je ne touche pas le sol sacré avec mes sacrés talons. C'est un temple de la culture japonaise. Et c'est assez difficile d'accès. Voilà. C'est pas comme le kabuki qui est rigolo comme tout, où ça bouge de partout, ça saute, ça crie. Là, c'est très lent. On ne marche pas, on glisse.
Et toujours pour parler du Japon, puisque vous avez une histoire d'amour assez longue avec le Japon. Oui. Vous êtes allé pour la première fois en 61. Le public vous suit et vous êtes une des rares artistes françaises à y aller très régulièrement et encore maintenant, parce qu'il y a quand même peut-être une baisse un petit peu d'affection des Japonais pour la chanson française. Et qu'est-ce que vous avez de particulier qui leur plaît tant?
Je dois être une blanche asiatique. J'ai un physique un peu particulier, qui est proche d'eux, finalement. Enfin, quand j'étais jeune, j'étais assez asiatique. Je suis un peu exotique partout où je vais, j'ai une drôle de tronche. Les cheveux, la coiffure, le maquillage et l'attitude, et les gestes. Ce qui les a beaucoup frappés, c'est la gestuelle aussi. Voilà. Et puis, ils ont aimé passionnément la chanson française quand elle était écrite par des poètes comme Prévert, comme Queneau, comme Sartre, comme Brassens, comme Barbara. Barbara a fait beaucoup de succès au Japon, beaucoup. Des gens comme ça, Brel. Maintenant, la nouvelle génération, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas l'écriture, ils ne reconnaissent pas la France dans cette écriture-là.
Et comment avez-vous résolu la question de la langue au Japon, puisque j'imagine que tous les spectateurs ne comprennent pas le français?
J'ai une organisatrice au Japon que j'ai fait commencer dans le métier, d'ailleurs, parce qu'elle travaillait pour une compagnie, elle était interprète. Et puis, elle a eu le désir de devenir productrice. Elle est devenue productrice avec son père. Et cette fille est extrêmement intelligente. Elle parle un français parfait, quasiment parfait. Elle a inventé un truc formidable. Comme la langue japonaise s'écrit du haut en bas, de chaque côté de la scène, il y a comme un dépliant où il y a écrit de quoi il s'agit. Donc, s'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec les mains avec les inflexions de la voix, ils savent de quoi il s'agit. C'est écrit sur le dépliant. Donc, c'est assez formidable.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Quand je sors de scène, je n'existe plus. Je n'existe plus, je suis à tordre comme une serpillière qui a vécu, qui a fait son travail, et je suis trempé. Et je ne me rappelle pas qui je vois. Je sais que sur l'instant je parle, mais je ne sais pas. Je garde aucun souvenir. Je suis très, 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 très fatigué quand je sors de scène. Je suis. C'est pas fatigué, c'est épuisé. C'est différent, c'est vidé, voilà. Pour la vie, l'aperçois, je sens en moi mon cœur qui bat.
Quel est votre plus beau souvenir de scène, vous qui avez parcouru le monde entier, qui avez sillonné la France entière?
Je ne me rappelle que les mauvaises choses. Je me rappelle les erreurs que j'ai faites. Par exemple, je ne sais pas, j'ai jamais eu d'applaudissements à la Philharmonie de Berlin. Je ne me rappelle que d'une chose, c'est que je me suis trompée. Je ne me rappelle pas les 20 minutes d'applaudissements, pas du tout. Je me rappelle ce que j'ai fait de mal. Et donc, je ne peux pas avoir de plus beaux souvenirs sur l'instant. Sur l'instant, je suis ailleurs, quoi. Voilà. Je suis dans ce pays qui est le mien et qui s'appelle la scène, qui s'appelle le théâtre. C'est mon pays.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Lorsqu'elle se produisait à l'étranger, Gréco modifiait son répertoire. Cette version de La vie en rose, chantée au Japon en 1986, est inconnue du public français et montre comment elle parvenait à donner une touche toute personnelle au grand classique de la chanson française. Durant ses 67 ans de carrière, en France et à l'international, Juliette Gréco a été sans doute, avec Édith Piaf, une des chanteuses françaises les plus connues à travers le monde. Nous la retrouverons la semaine prochaine pour la suite de cet hommage, avec des extraits de concerts tirés des précieuses archives de l'INA.
Thank you.
Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Claude Niort et Benjamin Vignal à la technique, Olivier Guérin et Massimo Bellini à la réalisation, Marie Chauveau à l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.